Oui, enfin, vous allez parler là, mais vous pourriez chanter, Clara Le Coq-Réal, bonjour.
Voici bonjour,
votre Guillaume. Journal.
Bonjour à tous, je pourrais, mais je vais parler dans ce journal. On sait désormais comment la protéine responsable de la maladie d'Alzheimer altère les neurones. C'est une découverte importante faite par des chercheurs français et nous vous l'expliquerons en début de cette édition.
Et puis nous reviendrons ensuite sur les nouvelles convocations de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Deux ministres seront notamment entendus, ainsi que l'ancien collaborateur de l'Élysée.
Les gilets jaunes et la crainte de nouvelles violences, demain samedi, dans ce journal, élément d'explication sur ce dialogue impossible avec le gouvernement.
Et puis, vous comprendrez aussi comment la parole s'est libérée pour des victimes d'actes pédophiles au sein de l'Église. Le jugement dans le procès Barbara sera rendu dans un mois et demi.
Et puis, retour sur une soirée agitée à Bucarest hier soir. La Roumanie a pris officiellement la présidence de l'Union européenne malgré une réforme de la justice controversée. Dans un gros quart d'heure après ce journal, Frédéric Seyss nous rejoindra. Il s'intéressera dans son billet politique à la démocratie de la cagnotte ou ce que signifie le gros million d'euros récolté pour les policiers. Nous débutons donc ce journal par cette découverte française. Des chercheurs ont compris comment progresse la maladie d'Alzheimer. On savait déjà que la protéine de tau était responsable de la dégénérescence progressive des neurones chez les patients atteints. Voilà que l'on apprend comment cette protéine fonctionne et se déplace de neurone en neurone. C'est le laboratoire des maladies neurodégénératives de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine qui a mené les travaux en partenariat avec Normalsup et l'Inserm. Il espère à terme pouvoir protéger les neurones de cette protéine. La découverte a été publiée hier dans The Imbo Journal, une publication prestigieuse. Pour nous l'expliquer, pour la vulgariser, Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à France Culture. Tara, c'est l'aboutissement de longues recherches.
Il y a une dizaine d'années, les chercheurs injectaient à des petits rongeurs des agrégats de protéines de tau qui étaient directement prélevés dans le cerveau d'animaux atteints par la maladie d'Alzheimer. Ils constataient ensuite la propagation du mal. Aujourd'hui, ils savent isoler des protéines fibrillaires de tau qui ont schématiquement la forme d'une fibre et ils parviennent à mettre en contact cette protéine pure avec des neurones cultivés dans une boîte de pétri. C'est ainsi qu'ils ont pu montrer comment la protéine de tau se fixe à la pompe sodium-potassium, une autre protéine présente dans la membrane des neurones est essentielle à leur fonctionnement puisque cette pompe crée la différence de potentiel qui génère l'influx nerveux des cellules du cerveau. La protéine de tau, une fois fixée aux neurones, génère une réorganisation anormale de la pompe sodium-potassium, mais aussi des récepteurs du glutamate qui, eux, sont responsables, pour faire simple, de la communication entre nos neurones. Enfin, le laboratoire a aussi montré comment la protéine de tau pénètre à l'intérieur de la cellule neuronale avant de la délaisser pour en contaminer une autre. C'est donc un mécanisme en trois temps qui a été décortiqué. L'objectif de ces recherches est de fabriquer des leurres qui ressembleront à un fragment du récepteur de glutamate, par exemple, afin d'attirer et de fixer les protéines de tau qui seront alors prises au piège et incapables d'attaquer les neurones. Le chercheur Ronald Melki, dont le laboratoire est à l'origine de ces découvertes, espère concrétiser ces pistes thérapeutiques d'ici 5 à 10 ans.
Merci Tara Schlegel pour ces explications précises. La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla convoque 5 personnes, bis repetita pour 4 d'entre elles, elles y retourneront. Il s'agit du principal intéressé, Alexandre Benalla, ancien collaborateur de l'Élysée, son compagnon lors du rassemblement du 1er mai dernier, Vincent Crase, mais aussi le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Aux affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui, devra répondre aux questions des sénateurs pour la première fois, convoqué également, et ce sera dans quelques jours, Stéphane Robert.
Les nouvelles auditions programmées par la commission d'enquête sénatoriale auront lieu mercredi de la semaine prochaine et le lundi suivant, le 21 janvier. Elles tourneront essentiellement autour de l'utilisation des passeports diplomatiques par Alexandre Benalla, passeport dont il s'est servi à plusieurs reprises à l'automne pour se rendre dans différents pays d'Afrique. Jean-Yves Le Drian sera interrogé sur la manière dont cette affaire a été gérée par le Quai d'Orsay. Comment se fait-il, demanderont les sénateurs, qu'on puisse aussi facilement passer outre les injonctions du ministère des Affaires étrangères qui les avait officiellement réclamées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera questionné sur le signalement de l'utilisation de ses passeports. C'est la police aux frontières qui en a la charge et elle est sous la tutelle de la place Beauvau. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, devra lui expliquer s'il avait ou non exigé la restitution des passeports diplomatiques à l'occasion du licenciement de l'intéressé. Quant à Alexandre Benalla, les sénateurs lui demanderont s'il maintient ce qu'il a publiquement déclaré, à savoir que ses passeports lui avaient été restitués par un employé de l'Élysée au mois d'octobre. Pour le Sénat et son président de la commission des lois, Philippe Bas, il s'agit de procéder aux toutes dernières auditions avant la clôture des travaux prévus début février, puisque cette commission d'enquête avait été ouverte début août pour 6 mois. Il s'agit sans doute aussi de montrer encore une fois que la seconde chambre du Parlement peut être utile, malgré la défiance qu'elle suscite au sein d'une frange de la population française, notamment chez les Gilets jaunes, dont une des revendications est la suppression du Sénat.
Les Gilets jaunes qui ne renoncent pas à leur mobilisation, ils préparent une 9e journée d'action demain samedi. Les rassemblements pourraient se concentrer à Bourges, dans le département du Cher, mais également à Paris toujours. 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire. Michel Delpuech, qui est encore ce matin préfet de Paris, craint une mobilisation plus forte que samedi dernier, avec plus de radicalité. Par ailleurs, une réunion est organisée ce matin à Matignon à propos du grand débat national en réponse aux Gilets jaunes. Pour la première fois depuis un mois, la plupart des partenaires sociaux vont se retrouver autour de la table, excepté Solidaires et la CGT qui déclinent l'invitation. Tout cela prouve un dialogue difficile, voire impossible sur le sujet entre le gouvernement et les syndicats, entre aussi et surtout l'exécutif et une partie de la population actuellement. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Vous allez revenir ce soir sur France Culture pendant une heure sur ce dialogue impossible et sur les racines de cette crise sociale devenue aussi politique. Ce sera le grand reportage. Pour cela, Sophie, vous vous êtes intéressée aux circonstances dans lesquelles ce dialogue se déroule et force est de constater que les conditions pour qu'il y ait un réel échange ne sont pas réunies.
Oui, pour débattre, il faut espérer donc des éléments sur la table, d'abord pour avoir une issue favorable, un respect des deux parties et une volonté d'atteindre un objectif commun, voilà, pour les prérequis. Il s'agirait de trouver, en l'occurrence, une concorde républicaine. Or, les Gilets jaunes d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre n'ont pas réussi depuis le 17 novembre dernier, depuis la première concrétisation dans la rue du mouvement, à en amorcer les conditions. C'est ce qui ressort des archives, des prises de parole, des faits, des provocations, des violences, des arrestations et des ripostes qui se sont déroulées pendant les 8 actes précédents, celui annoncé pour demain. Dans cette crise, la violence, le mépris, l'absence de réponse adéquate au fur et à mesure des samedis ont débouché sur des flambées de violence, des images qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux, un climat anxiogène. Dans ce reportage, nous réentendrons notamment la vidéo devenue virale de Jacqueline Mouret, devenu ensuite égérie des Gilets jaunes, après avoir dénoncé la taxe carburant et toutes les hausses de dépenses liées à la voiture et plus largement le mépris d'Emmanuel Macron envers le peuple. Une vidéo qui a été vue plus de 6 millions de fois sur Facebook. Nous irons aussi sur les Champs-Élysées, notamment prendre conscience de l'évolution des manifestations au fur et à mesure. Nous replacerons aussi dans le contexte les différentes prises de parole et les mesures annoncées par l'exécutif. Et sur France Culture, nous mènerons un grand débat traversé de références historiques et d'analyses sociologiques. Un débat radiophonique en l'occurrence.
Et nous vous retrouvons donc ce soir à partir de 17h, Sophie Delpont, pour ce grand reportage Gilets jaunes, le dialogue impossible. Il y aura du dialogue ce soir avec vous, Sophie, autour de Aurélie Kiefer. C'est un grand reportage qui est réalisé grâce à Annie Bro. Et il sera animé avec un historien et 2 sociologues qui seront à vos côtés. C'est une première en France. La justice reconnaît que le lien qui a uni un ancien chauffeur d'Uber à la plateforme de réservation en ligne, que ce lien est bien un contrat de travail. Selon la Cour d'appel de Paris, il y a tout un faisceau suffisant d'indices qui caractérise, dit-elle, le lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme Uber. Une première reconnaissance donc en France. Le tribunal rendra sa décision le 7 mars prochain dans le procès Barbarin. Le cardinal de Lyon et 5 anciens membres du diocèse comparaissaient depuis lundi pour ne pas avoir divulgué des agressions sexuelles d'un prêtre sur 2 jeunes scouts. Face à la relaxe générale requise par la procureure adjointe, les plaignants se disent au moins satisfaits d'avoir pu dénoncer en public les silences de l'Église. Samuel Pruvot est rédacteur en chef au magazine catholique Famille Chrétienne. Il souhaite surtout souligner ce matin l'importance qu'a eu lors de ce procès l'association de victimes La Parole Libérée. Il s'en explique au micro de Stanislas Vazak.
Avant l'action de La Parole Libérée, en tout cas sur Lyon mais aussi ailleurs, La Parole elle est forcément condamnée, j'allais dire, à rester enfouie. Et si vous me permettez ce terme qui n'est pas bon mais qui a été utilisé par beaucoup de victimes, à faisander. C'est-à-dire que la moyenne pour qu'une victime soit capable de parler, la moyenne aujourd'hui c'est de 30 ans. Ça paraît démentiel, mais c'est le cas. Donc La Parole Libérée a libéré au moins la parole des victimes, d'un certain nombre d'entre elles, non seulement à Lyon, mais ailleurs. Alors, est-ce que ça a libéré la parole dans l'Église? Je pense qu'objectivement, l'Église a fait un travail sur elle-même qui est un travail de l'Église universelle. Hein, depuis les années 2000, avec Benoît XVI, il y a quand même une parole très forte sur qu'il appelle tolérance zéro. Donc ça, on ne peut pas l'interpréter de mille manières. En revanche, ce qui a été dit par les partis civils, et je pense qu'il faut l'entendre, il y a une question de mentalité qui fait que tel ou tel homme, tel ou tel prêtre, peut être amené à se dire que, au regard justement du scandale public, attention, il faut quand même protéger un petit peu la paroisse, protéger l'image, protéger l'institution. Et ça, de fait, j'allais dire, c'est pas gagné, malgré la direction très claire donnée par Benoît XVI, le pape François, qui est de dire on ne défend pas l'institution. S'il y a quelqu'un à défendre, c'est les victimes.
L'Église de France face à la pédophilie, quelle lutte engagée ces dernières années. C'est aussi une enquête à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Comme un air de déjà-vu au Japon, ce matin, Carlos Ghosn a été inculpé pour deux nouveaux chefs d'accusation par le parquet de Tokyo. L'ancien président de Nissan est accusé d'abus de confiance à l'encontre du groupe automobile japonais, accusé aussi de dissimulation d'une partie de ses revenus ces trois dernières années. C'est pour cela qu'il était en garde à vue ces dernières semaines. Notons également que Nissan est poursuivi en tant qu'entité morale.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Roumanie prend officiellement la présidence tournante de l'Union européenne.
Et le lancement s'est fait hier soir à Bucarest, en présence notamment du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le tout dans un climat tendu, tant à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de spectacle, Angélique Bouin.
Sous de gros flocons de neige, ils ont passé toute la soirée dehors en scandant le nom de l'Europe. Désolé pour ce gouvernement, disait une pancarte, un gouvernement qui tente de mettre la justice à genoux pour protéger ses dirigeants, selon ses opposants. Et c'est bien la réforme de la justice qui est au cœur de la brouille entre Bruxelles et la majorité en place. Alors, dans les discours officiels, on a bien évoqué les liens forts qui unissent la Roumanie à l'Europe. Mais face à la première ministre roumaine, Jean-Claude Juncker n'a pas éludé la question.
L'Union européenne est faite de compromis. Mais lorsqu'il s'agit des droits humains, lorsqu'il s'agit de l'état de droit, lorsqu'il s'agit du respect de la règle de droit, lorsqu'il s'agit de la lutte contre la corruption, il n'y a pas de compromis possible.
Le président de la Commission européenne avait émis des doutes en décembre sur la capacité de la Roumanie à présider l'Union. Sauront-ils faire passer leurs propres préoccupations au second plan, disait-il. Nous assumerons notre rôle de façon souveraine, a vertement répondu le vice-président de la Chambre des députés au nom de Liviu Dragnea, l'homme fort du pays, qui brillait hier soir par son absence.
Angélique Bouin, notre envoyée spéciale à Bucarest. Donald Trump était au Texas hier soir pour vanter son projet de mur à la frontière avec le Mexique, du bon sens selon lui. Pour le financer, le président américain réclame toujours plus de 5 milliards de dollars, refus des démocrates, et cela bloque en partie l'administration fédérale depuis 20 jours maintenant. La justice birmane rejette à l'instant le recours fait par deux journalistes de l'agence Reuters en Birmanie. Ils avaient été condamnés en première instance à 7 ans d'emprisonnement pour une enquête sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée birmane. Ces deux journalistes restent donc a priori en prison. Nous les évoquions la semaine dernière sur notre antenne. Ces deux grandes roues de tracteurs dorés monumentales installées par l'artiste visuel Claude Lévesque à l'Opéra Garni à Paris. Tous les visiteurs ne sont pas convaincus. Alors hier, lors du vernissage, l'artiste a expliqué sa démarche au micro de Cécile de Kervas-Douai sans balayer le débat autour de la place de l'art contemporain dans des lieux patrimoniaux.
Bon, il y a eu tous ces tweets, il y a eu ces réactions parfois très violentes. Moi j'ai trouvé ça dur, ça a été un peu douloureux parce que j'ai pas choisi un élément par hasard pour faire un acte comme ça de provocation.
L'artiste visuel tient à le rappeler. Il aura fallu 2 ans de travail avec l'Opéra de Paris et une enveloppe de 200 000 euros de mécénat privé pour aboutir à ces Saturnales, c'est-à-dire un diadème lumineux sur le toit de l'Opéra Bastille et à Garnier, des anneaux bleutés autour de la rotonde des abonnés, un éclairage rose sur la Pitié et ces deux grandes roues de tracteur sur le grand escalier. L'objectif de ces œuvres provisoires, explique l'artiste Claude Lévesque, est de faire résonner le lieu.
C'est vrai que c'est Saturnal, c'est pour ça aussi qu'il y a cette appellation. C'est des fêtes du solstice d'hiver où il y avait un renversement de la société. Les pauvres devenaient riches, les riches devenaient pauvres. C'est ce que j'ai voulu faire aussi avec les éléments que j'ai inscrits dans ces lieux. Après, les pneus, c'est un objet contemporain, c'est un objet souvent du rebut, mais en même temps, ça a valeur de couronnement. Et aussi le mouvement comme une étoile de ballet qui va tourner sur elle-même.
Pour son anniversaire, l'Opéra de Paris dit vouloir vouloir moderniser son image, d'où le recours à des artistes contemporains pour des installations ou des expositions sur l'opéra prévues par exemple au centre Pompidou-Metz. Pourtant, depuis l'affaire des colonnes de Buren au Palais Royal, ce type d'association a rarement atteint sa cible, considère Nathalie Hennick, chercheure au CNRS en sociologie de l'art contemporain.
Depuis au moins les années 80, on a beaucoup privilégié l'aide à la création innovante, mais on n'élargit absolument pas la fréquentation de ces lieux à d'autres publics. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus gratifiant pour un responsable culturel d'inviter des artistes d'avant-garde que d'avoir autour de lui des gosses de banlieue.
Pour ce type de public, l'opéra a prévu d'accueillir un concours international de danse hip-hop le 26 décembre prochain.
Stéphane Lissner, vous êtes le directeur de l'Opéra National de Paris, invité des Matins de France Culture. On vient de l'entendre dans ce reportage. Pour ses 350 ans, l'Opéra de Paris a voulu s'ouvrir à de nouvelles formes d'art et à un nouveau public. Y a-t-il à l'Opéra un métissage social qui se met en place ?
Mais on en a parlé, bien sûr, avant votre journal, avec la troisième scène. Hein, déjà, quand je parlais des 4 millions de vues, c'est une plateforme digitale, évidemment, qui est à côté, qui est présentée au-delà de la programmation lyrique et chorégraphique. Donc ça, c'est une ouverture forte. Et il y a aussi toutes les manifestations avec les musées que nous et différentes grandes institutions que nous présenterons pendant toute cette année de 350 ans. Oui, nous avons choisi comme slogan moderne depuis 350 ans. Pourquoi nous sommes modernes depuis 350 ans ? Parce que l'opéra a continuellement, pendant tous ces siècles, invité des artistes de son époque. Et c'est fondamental. Et les polémiques que nous avons eues avec André Malraux lorsqu'il a commandé à Marc Chagall le plafond pour remplacer celui de Jules Le Neveu, même la décision de donner à Charles Garnier la construction du nouvel opéra.
Et vous arrivez grâce à cela à convaincre toutes les tranches d'âge ?
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que on parle toujours des spectateurs, bien sûr, qui viennent à Garnier ou à Bastille, mais on oublie les 800 000 visiteurs qui, eux, n'assistent pas au spectacle, mais qui sont à Garnier dans les parties publiques. Et nous présentons chaque année deux grandes expositions avec la collaboration de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France. Et ces expositions sont évidemment vues, et parfois nous avons des artistes contemporains, parfois nous avons des expositions plus classiques, mais la présence d'un artiste visuel comme Claude Lévesque, qui avait d'ailleurs déjà travaillé sur un ballet avec Angelin Préjolocage, qui avait, comme vous le savez, travaillé au musée du Louvre, mais également avec la fondation Lambert à Avignon. C'est un artiste visuel de notre époque, de notre temps, et je trouve ce n'est pas la vocation de l'opéra de faire ça tout le temps, mais là, pour marquer notre anniversaire, pour marquer nos 350 ans, nous devons réfléchir sur notre patrimoine, bien évidemment, mais surtout d'être tourné vers l'avenir. C'est ça qui est le plus important.
Merci Stéphane Lissner. On vous retrouve dans 5 minutes sur France Culture. Je précise que l'année dernière, vous avez accueilli 11% de spectateurs qui avaient moins de 28 ans. La météo de ce vendredi qui débute avec un temps faiblement perturbé par quelques chutes de neige sur le nord-est du pays. Encore des nuages au nord de la Loire et de belles éclaircies au sud. Comptez 1 degré à Strasbourg ce matin, 3 à Lyon, 6 à Bordeaux, 7 degrés à Paris et Perpignan, 10 degrés à Brest et à Bastia.